Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
8h21, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Gilles Boyer, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Sur notre antenne, ancien directeur de campagne d'Alain Juppé pendant la primaire, je le rappelle, candidat aux législatives dans les Hauts-de-Seine. La parole est à Elisabeth Martichoux.
Bonjour Gilles Boyer.
Bonjour.
Merci donc d'être avec nous dans ce studio d'RTL. Effervescence à tous les étages depuis l'élection d'Emmanuel Macron, en particulier dans votre parti LR. Ceux qui sont tentés de rejoindre le président élu doivent-ils être exclus, comme le veut désormais la règle Barouin?
L'élection d'Emmanuel Macron, 39 ans à la tête de la France, crée un contexte politique totalement nouveau et constitue d'une certaine manière un tremblement de terre. Dans un tremblement de terre, il y a un séisme, ensuite il y a des secousses, il y a des répliques. Et ceux qui n'en tiennent pas compte risquent d'être balayés par un certain nombre de ces secousses. Il faut en tenir compte. L'élection d'un président qui va désigner lundi un Premier ministre, qui potentiellement n'appartient pas à sa famille politique, est une donne totalement nouvelle. Et j'aimerais qu'au sein de nos familles politiques, pas seulement la mienne, les Républicains, on arrête cette dialectique de l'invective, de l'insulte, de l'exclusion, pour ceux qui sont tentés de faire un choix différent du mien en l'occurrence et du nôtre. Je comprends ceux qui, parmi nous, ont envie de participer à cette tentative de redressement du pays qui est indispensable. Et si Emmanuel Macron désigne lundi un Premier ministre qui appartient aux Républicains ou appartient à la famille de la droite et du centre, nous ne pouvons pas ne pas en tenir compte.
Vous, non, c'est très important ce que vous venez de dire, on ne vous a pas interrompu parce que chaque mot est très précis, vous êtes très clair. Donc un, pas d'exclusion, pas d'insulte, pour accompagner ce mouvement historique, révolutionnaire, dites-vous, qu'initie Emmanuel Macron. Et c'est une chance pour la France s'il nomme un Premier ministre issu de vos rangs. Il faut, dans ces cas-là, répondre oui et l'accompagner.
Nous ne pouvons pas faire comme si rien ne s'était passé. La droite française vient de subir deux défaites consécutives aux élections présidentielles. Donc si nous n'en tirons aucune conséquence, sinon qu'il faut faire exactement comme avant, nous courons le risque d'arriver au même résultat.
Donc l'exclusion, c'est pour vous contre-productif ?
En tout cas, je fais le choix. Je serai candidat à LR et UDI dans ma circonscription des Hauts-de-Seine. Et je demande qu'on respecte ceux qui ne font pas le même choix que moi. Je le comprends. Je le comprends, parce que ce qu'est en train d'essayer de créer Emmanuel Macron va bien au-delà du clivage droite-gauche traditionnel. Et évidemment, dans cette tentative, dans cette entreprise, le choix de son Premier ministre, que nous aurons, d'après ce que j'entends, dimanche ou lundi, sera déterminant.
Mais ce que j'entends, c'est que vous dites, Emmanuel Macron, même, il doit nommer un Premier ministre de droite.
Quand je dis
il doit, vous dites, ce serait logique, et c'est comme ça qu'il ira au bout de sa recomposition. Vous dites, s'il nomme un Premier ministre issu de la gauche, finalement, il met un coup d'arrêt à la recomposition qu'il veut.
Il a annoncé lui-même une vaste recomposition de la vie politique. C'est la démarche de toute sa candidature. Et dans le mois qui vient, nous aurons ou non la concrétisation de cette recomposition. Il y aura deux événements majeurs dans le mois qui vient, la nomination du Premier ministre et du gouvernement la semaine prochaine et les élections législatives. Ouais. Le premier événement, Emmanuel Macron le choisit, le deuxième, il va le subir. Et c'est à l'issue de ce processus que nous saurons si la recomposition de la vie politique peut connaître une concrétisation.
Pour être précis, s'il nommait un Premier ministre issu de la gauche, ce ne serait pas un bon signal.
Il fait son choix.
C'est à lui de le faire.
Je n'ai pas à le juger. En tout cas, en tant qu'homme de droite, j'aurais du mal à me dire que la nomination d'un Premier ministre appartenant à la droite et au centre est une mauvaise nouvelle.
En tant qu'homme de droite, est-ce que vous comprenez que ce qu'on appelle le peuple de droite, c'est-à-dire les Français qui ont participé aux primaires massivement et qui ensuite ont voté François Fillon au premier tour, puissent ne pas comprendre votre engagement aux côtés de celui qui est perçu à tort ou à raison comme l'héritier de François Hollande?
Mais je n'ai aucun engagement aux côtés de celui qui est perçu à tort ou à raison comme l'héritier de François Hollande. Je serai candidat sous les couleurs de LR et de l'UDI aux élections législatives.
C'est définitif. Même s'il y a un Premier ministre de droite nommé par Macron, vous ne le regretterez pas.
Je le regretterai peut-être. Si je perds, je le regretterai, Elisabeth Martichoux. Mais en tout cas, je serai fidèle à la famille politique qui m'a fait confiance. Et j'aurai contre moi un candidat qui représentera la République en marche, selon toute vraisemblance, puisqu'il y aura 577 candidats. Donc ça ne change pas mon choix.
Et ça me rend, Mais vous respectez celui de Bruno Le Maire.
Ça me rend, je dirais, d'autant plus libre pour dire que nous devons, collectivement, respecter ceux qui font un choix différent, arrêter d'être dans la logique d'exclusion qui nous a conduit vers deux défaites.
Et donc vous serez un député LR qui soutiendra ponctuellement le gouvernement présidé par Emmanuel Macron.
Nous devons également cesser de considérer que la majorité doit voter oui systématiquement et que l'opposition doit voter non systématiquement. Cette logique d'opposition systématique nous a aussi, là aussi, conduit à des incompréhensions majeures avec les Français.
C'est ce qu'elle a voulu dire Juppé hier, dans Alain Juppé. Pas d'obstruction automatique.
Probablement, parce que c'est ce qu'il dit avec une grande constance depuis plusieurs années. Je ne suis pas ici son porte-parole, mais je suis en l'occurrence tout à fait en accord avec ce qu'il dit, comme toujours. Donc si je suis élu, je serai un député qui votera les bons projets et qui votera contre les mauvais, et qui cherchera à les améliorer. Je ne peux pas vous dire mieux, il faut que la France avance. Il faut que la France avance. Donc il faut que les valeurs de la droite et du centre soient portées à l'Assemblée par le plus de députés possible, de manière à ce que le programme du futur gouvernement aille dans notre sens le plus possible. Mais l'idée de se dire qu'on va voter contre un projet sous prétexte que c'est quelqu'un d'autre qui le propose, cette idée-là, elle est révolue.
Un super suspense quand même autour, évidemment, du nom du Premier ministre, dans ce contexte inouï. En tête de liste, de la shortlist, dit-on, du président élu, il y a Édouard Philippe, qui est un de vos meilleurs amis, vous le connaissez très bien, très proche aussi d'Alain Juppé. Si on lui propose, vous les conseillez d'accepter, d'après ce que vous venez de nous dire.
Elisabeth Martichaud, on passe beaucoup de temps, vous et nous, à commenter des événements qui, pour la plupart, ne se produisent jamais. Donc il y a un seul homme en France qui sait qui sera le Premier ministre de la France, c'est le Président de la République. Attendons ce choix. Ce que je crois, c'est que lorsqu'on propose Matignon à quelqu'un, qui que ce soit, avant de refuser, il faut bien réfléchir.
Ça ne se refuse pas selon la formule consacrée, ou en tout cas...
On a le droit, dans des circonstances aussi particulières que celles que nous vivons, d'émettre un certain nombre de souhaits, d'en savoir plus sur le projet qui va être mis en œuvre, de demander un certain nombre de clarifications.
C'est votre ami, il ferait un bon Premier ministre.
Ah oui, si j'étais le Président de la République, je nommerais Édouard Philippe Premier ministre.
Ah oui, il a les épaules, il a l'expérience.
Il a l'expérience, écoutez.
Il faut, dit-on, un homme qui connaît bien la chose parlementaire dans le contexte encore indécis qu'on va connaître.
Un monde nouveau est en train de s'ouvrir. Donc si nous apprécions ce monde nouveau avec les critères du monde ancien, nous sommes certains d'être décalés. Emmanuel Macron a placé son élection sous le signe de l'audace. Il y a une part de chance dans la conjonction de circonstances qui ont abouti à son élection, mais il a placé son élection sous le signe de l'audace. Et donc expliquez-moi pourquoi il cesserait d'être audacieux au moment précis où il vient d'être élu.
Ce serait logique, il irait jusqu'au bout de sa recomposition. Le nouveau, vous connaissez le NRCD ou pas ?
Ah non.
Non. Le nouveau rassemblement du centre et de la droite, que votre ami, Édouard Philippe, et son collègue de Valenciennes, Monsieur De Gallet, Laurent, est en train de, dit-on, créer un parti en marge de Les Républicains.
C'est faux.
Vous démentez
je dément
totalement
formellement.
C'est totalement faux, cette...
Ah, écoutez, dans le contexte que nous vivons, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de créer un nouveau parti politique qui viendrait s'insérer entre Les Républicains, l'UDI et la majorité présidentielle en cours de constitution? Est-ce que vous pensez que ça contribuerait à la clarification des choses? Ce serait une erreur majeure.
Est-ce qu'il y a une vingtaine de jupéistes, comme on le dit aussi, avec vous c'est bien, on fait le ménage, qui se réunissent aujourd'hui pour imaginer quand même de recomposer quelque chose en marge de LR?
Non.
Non, vous êtes formel, en tout cas vous n'en êtes pas. Parle des jupéistes.
Vous avez raison, il y a peut-être des choses qui se font sans moi.
Est-ce que vous êtes d'accord aussi avec la proposition, ou plutôt la décision de François Baroin, au titre de chef de file des Républicains pour les législatives, de promettre une baisse d'impôts de revenus de 10% dans le programme? C'est un ajout au programme.
Je soutiens le projet qui a été adopté hier par les Républicains et par l'UDI, et je suis très heureux que François Baroin conduise notre campagne. Il propose un projet global, et c'est difficile d'isoler cette mesure d'un plan fiscal d'ensemble. Le ras-le-bol fiscal, je ne suis pas le seul à l'avoir constaté, et certains ministres socialistes l'ont même eux-mêmes posé en diagnostic lors du quinquennat précédent. Donc il faut y répondre. Après, il y a différents outils qui le permettent. Tout dépend à qui on veut adresser des messages. À titre personnel, je crois qu'il est plus important d'adresser des messages aux chefs d'entreprise, du point de vue de la fiscalité, que sur la fiscalité des particuliers. Mais c'est une nuance, c'est une question de sensibilité personnelle.
C'est pas une adhésion à 100%.
Non, mais enfin, qui adhère à quoi à 100% aujourd'hui? On a tous des nuances.
On a surtout compris que vous nous expliquiez ce matin qu'on était tout simplement en train de changer le monde politique aujourd'hui dans notre pays. Merci beaucoup Gilles Boyer. Je rappelle que vous avez été directeur de campagne d'Alain Juppé pendant la primaire et que vous êtes donc candidat et que vous le resterez, Les Républicains, dans le département des Hauts-de-Seine.